Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des températures caniculaires et des vents violents ravivent les flammes dans le centre de l'Australie. Après 5 mois d'incendie, les premiers bilans économiques sont catastrophiques. Nous irons à Sydney. Direction ensuite Washington, où se tient le procès en destitution contre Donald Trump. Les sénateurs démocrates sont aussi candidats à l'investiture en vue de la présidentielle. Certains le sont et ils ont dû suspendre leur tournée pour ce procès. Et puis en France, les jeunes chercheurs seront embauchés avec de plus hauts salaires. La ministre Frédérique Vidal s'en explique sur notre antenne. Et l'on commence donc en Australie, traversée par d'énormes nuages de poussière dus aux incendies qui ravagent le pays depuis 5 mois maintenant. Hier, ils ont poussé les autorités à ordonner la fermeture de l'aéroport de Canberra, la capitale australienne. Les autorités souhaitent ainsi réserver les pistes aux avions bombardiers d'eau. L'un d'eux a cette nuit disparu des radars, laissant craindre qu'il se soit écrasé. Le bilan de ces incendies en Australie est de 29 morts depuis septembre, plus de 2000 habitations détruites, avec d'importantes conséquences pour l'économie, Grégory Pless.
En Australie, les feux n'ont pas fini de brûler, mais on commence déjà à estimer l'impact d'une telle catastrophe sur l'économie. Il est très lourd pour la plus grande ville du pays, Sydney, qui a pourtant été épargnée par les incendies, mais pas par la fumée. Il se compterait en millions d'après Terry Ronsley, économiste au cabinet SGS.
Le manque à gagner par jour pour Sydney est de 7 à 31 millions d'euros. Au cours des 2 derniers mois, il y a eu environ 20 jours où la qualité de l'air a été suffisamment mauvaise pour que les habitants changent de comportement. Ils sortent moins dîner, ils consomment moins, certains ont même dû s'absenter du travail. Si on prend en compte tous ces facteurs, l'économie de Sydney a perdu entre 123 et 617 millions d'euros.
Des terrasses de café et de restaurants qui restent vides, des employés asphyxiés par les fumées qui ne peuvent plus travailler, mais aussi les touristes qui renoncent à venir visiter l'Australie, effrayés par les images des incendies qui sont passés en boucle sur toutes les télés du monde. C'est particulièrement vrai pour les touristes chinois, un marché sur lequel est spécialisée l'agence de voyage que dirige Rex Zai.
Normalement, on est en plein dans la haute saison et pourtant c'est très calme. Et puis on a aussi remarqué que beaucoup de nos clients ont annulé leur voyage, qu'ils avaient pourtant déjà réservé.
L'effet des incendies dépasse largement le seul marché chinois. D'après les autorités officielles, le secteur du tourisme australien a déjà perdu au moins 3 milliards d'euros.
C'était Grégory Pless à Sydney pour France Culture. Et l'on évoquait à l'instant le tourisme chinois. Les allées et venues pourraient diminuer un peu plus à cause du coronavirus, encore méconnu. Dans le centre de la Chine, les autorités ont pris des mesures radicales, mettant en quarantaine la ville de la région, Wuhan, d'où s'est vraisemblablement partie l'épidémie. 17 personnes sont mortes. Le nombre de cas infectés par ce virus dépasse les 500, essentiellement à Wuhan. Aux États-Unis, au troisième jour du procès en destitution de Donald Trump, l'accusation démocrate va dérouler ses arguments. Le président américain est toujours accusé d'avoir téléphoné à son homologue ukrainien cet été pour avoir tenté d'obtenir des informations sur son rival politique, Joe Biden. Les avocats de Donald Trump devraient prendre la parole lors du procès ce week-end. Ce procès n'a pour le moment pas de date de fin et c'est précisément ce qui pose problème en ce moment à 4 sénateurs démocrates qui sont candidats pour la présidentielle de 2020. Ils sont contraints de rester dans la capitale pour assister au procès et doivent donc mettre leur campagne entre parenthèses, Grégory Phillips.
La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, a depuis 48 heures confié les clés de son compte Twitter à sa fille Abigail afin qu'elle communique à sa place sur les réseaux sociaux. En effet, pendant ces très longues journées d'audience, les sénateurs sont privés de téléphone portable et d'ordinateur dans l'hémicycle. Pas moyen non plus pour eux d'aller sillonner l'Iowa, cet État qui sera le premier à se prononcer dans la primaire démocrate, car le procès à Washington a lieu 6 jours sur 7, présence obligatoire. Et voici ce que répond Klobuchar quand sur ABC, on lui demande si elle parviendra à faire le nécessaire pour remporter ce caucus.
Oui, et encore une fois, mon devoir constitutionnel passe avant tout.
Même chose pour Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, qui lundi soir a tenu un dernier meeting à Des Moines et a prévenu ses supporters qu'il allait devoir s'absenter. Pareil pour la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, et le sénateur du Colorado, Michael Bennett, mais qui est beaucoup moins bien placé dans les sondages. Pendant ce temps-là, leurs concurrents labourent le terrain, Joe Biden et Pete Buttigieg multiplient les réunions publiques, 4 à 6 par jour, car le caucus de l'Iowa du 3 février est capital. Celle ou celui qui l'emportera prendra une longueur d'avance dans la course à l'investiture.
Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi. Voici le coup de colère d'Emmanuel Macron face aux forces de sécurité israéliennes hier, à l'image de Jacques Chirac en 96. Le chef de l'État a reproché aux soldats israéliens d'être entrés dans l'église Sainte-Anne, un territoire français, alors que les soldats n'ont pas le droit d'y entrer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron participe aux cérémonies pour le 75e anniversaire de la libération des camps nazis. Juan Guaido brave toujours son interdiction de sortie de territoire. L'opposant vénézuélien est en tournée auprès des pays qu'il avait soutenus il y a un an maintenant contre le président Nicolas Maduro. Juan Guaido était ainsi hier à Bruxelles, accueilli chaleureusement par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Selon lui d'ailleurs, l'Assemblée nationale vénézuélienne est le seul organe démocratiquement élu au Venezuela et Juan Guaido est son président légitime. Ce dernier a pris la parole devant une délégation d'eurodéputés hier. L'Europe, a-t-il dit, peut agir, précisant que la détermination du peuple vénézuélien est toujours intacte.
Si la lutte au Venezuela est ancienne, la dictature elle aussi vient de loin. Elle ne s'est pas imposée en un jour. Malheureusement, la violation systématique des droits de l'homme, la confiscation graduelle du pouvoir, le démantèlement de l'état de droit au Venezuela ont des conséquences très graves dans notre pays comme dans toute l'Amérique latine. Cette dictature a notamment provoqué la crise migratoire, l'urgence humanitaire que nous connaissons. Pendant des années, nous avons vu des rassemblements gigantesques au Venezuela. Des milliers de gens, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues. Et malgré les coups de feu essuyés, malgré les menaces, ils continuent et nous continuons. Car ce qui est en train de se passer dans notre pays avec ce soulèvement, c'est la construction d'une majorité et cela va se poursuivre. En fait, le symbole de ce que le Venezuela est en train de vivre, c'est ce qui s'est passé le 7 janvier, quand les militaires ont investi le Parlement et ont essayé d'en bloquer les portes. Ils ont empêché les députés d'entrer, mais les parlementaires se sont mis à pousser. Ils nous ont poussés et nous sommes parvenus à faire céder les portes. Voilà ce qui se passe au Venezuela. Ils sont très peu à soutenir le dictateur, c'est sûr. Il ne pourrait pas se faire élire président aujourd'hui. Il agit comme un dictateur, il a usurpé ses fonctions, il viole les droits de l'homme, il emprisonne, il torture et il persécute.
Des propos de Juan Guaido depuis Bruxelles, recueillis par Angélique Bouin. La procréation médicalement assistée, la PMA, ouverte aux femmes célibataires et homosexuelles, a été validée hier soir par le Sénat, adoptée par 160 voix contre 116. En revanche, les sénateurs ont annulé le choix voté par l'Assemblée de faire rembourser la PMA à toutes les femmes par la Sécurité sociale. Après des semaines de grève, la CGT agit tous azimuts contre le projet de réforme des retraites. Elle lance notamment des coupures d'électricité sauvages que le gouvernement s'est engagé à sanctionner pour atteinte à l'esprit du service public. Hier d'ailleurs, deux agents d'Enedis ont été placés en garde à vue en Dordogne. La réforme des retraites sera présentée en Conseil des ministres demain, journée de mobilisation nationale. Et c'est pour pallier un éventuel manque à gagner chez les chercheurs avec cette réforme des retraites que la ministre de l'Enseignement supérieur annonçait pendant ses vœux l'augmentation des salaires pour les jeunes chercheurs. Ils toucheront au minimum 2 fois le SMIC contre 1,3 actuellement. Une enveloppe de 26 millions d'euros est prévue à cet effet. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, était l'invité du journal de 22h hier soir sur France Culture.
L'objectif, c'est de redonner de l'attractivité au métier de la recherche. Aujourd'hui, lorsque vous êtes recruté en moyenne à 34-35 ans dans des carrières de chercheur ou de maître de conférence et que vous devez travailler 42 et bientôt 43 ans, de toutes les façons, votre retraite, c'est 67 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi spécifiquement pour ce type de personnes, eh bien des améliorations qui seront apportées parce qu'on revalorise globalement les salaires, qui seront apportées parce qu'il y aura des compensations probablement de manière à ce qu'il n'y ait pas de pertes, mais ça a été rappelé très clairement. Nous avons dans les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche un sous-investissement dans l'indemnitaire qui est un vrai problème, et l'objectif c'est bien que nous puissions arriver à un niveau d'indemnitaire qui soit comparable à celui de corps équivalent dans la fonction publique.
Frédéric Vidal, interrogé par Stanislas Vazak, est retrouvé sur franceculture.fr, notre article sur la revalorisation des salaires des jeunes chercheurs. Deux fleuves ont débordé hier dans le sud de la France à cause de fortes pluies. L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont d'ailleurs en vigilance rouge aujourd'hui encore. Ailleurs, il y aura des nuages et pas mal de soleil, avec moins de 2 degrés ce matin à Strasbourg, 1 à Paris et Rennes, 14 dans la matinée à Marseille.